Bonjour à tous. Je vais commencer par prier. Dieu Père, c'est une grâce effectivement de se retrouver tous ce matin pour t'honorer d'abord, pour adorer ton nom et puis pour être enseigné par ta parole. Alors donne-moi d'être fidèle à ce que tu as à nous dire ce matin et puis donne au cœur de chacun d'être attentif à ta parole. Amen. Alors, merci d'abord Clément pour cette introduction. on va vraiment parler du même sujet, ce sujet de l'unité aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça tombe par hasard, j'aime bien dire par hasard avec un grand D comme Dieu. Cette semaine, c'est la grande. Les débats qui ont été ouverts, les débats des Nations Unies. Vous connaissez. Cette institution, l'Assemblée générale des Nations Unies, avec des grands chefs d'État de la Terre qui viennent à la tribune pour discuter et pour parler de paix, de sécurité. Et ce, maintenant, depuis plus de 70 ans. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que tous les hommes du monde se concertent, se retrouvent tous ensemble et se concertent pour discuter de paix. Ça fait naître des espoirs, et puis c'est d'autant plus extraordinaire qu'ils viennent parler de toutes sortes de langues. Chacun s'exprime dans sa propre langue et est traduit instantanément par une armée de traducteurs. D'ailleurs, j'ai vu, il y a donc des offres d'emploi si vous êtes traducteur. L'ONU recrute, mais c'est pas le sujet du message de ce matin. C'est beau, et en même temps, voilà, on aurait envie d'y croire. On a envie de se dire, voilà, tous les hommes qui sont unis ensemble, qui parlent de paix. Alors, si vous avez suivi un petit peu les infos, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Ce qui pourrait être un beau rêve, finalement, y a au moins des bémols. Et j'ai l'honneur ce matin de conclure une belle série qu'on a commencé cet été d'études sur la Genèse, des chapitres 1 à 11. Et on va comprendre aujourd'hui pourquoi on s'arrête au chapitre 11. Enfin, en tout cas, pourquoi ça fait une unité jusqu'au chapitre 11. Jérémie, il y a un mois, avait fait la dernière prédication sur le déluge, donc des chapitres 6 à 9. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux seulement 9 premiers versets du chapitre 11. Donc la Sion se situe quelques générations après le déluge. Et on a vu donc, après le déluge, Dieu a comme recréé la terre, lancé un nouveau départ pour l'humanité. Et en particulier pour Noé et ses fils qui ont été préservés du déluge. Et au chapitre 9, verset 1, il leur donne comme un mandat: reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Et il le répète encore au verset 7 avec d'autres mots: quant à vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Ça fait écho d'ailleurs à un ordre qui avait été donné aux premiers hommes, donc au chapitre 1 de la Genèse. Et donc, après ce chapitre 9, il y a un chapitre 10, naturellement, qui est connu sous le nom de Table des Nations ou Livre des Peuples. Et c'est une généalogie des descendants de Moïse qui vont peupler la terre, comme en réponse à ce dernier verset du au verset 1 et 7 du chapitre 9. On parle de plusieurs villes, notamment on parle de Babel. On parle du partage de la terre à l'époque de Péleg. On parle de plusieurs langues, de dispersion. Et donc, bref, tout se passe comme si... tout se passe comme prévu. Et le dernier verset du chapitre 10, chapitre 10, verset 32, « Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur terre après le déluge. » Et au chapitre 11, étonnamment, l'auteur revient en arrière, fait un flashback, et nous montre que ça ne s'est peut-être pas passé si simplement. Alors je vais lire le texte. Chapitre 9, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils s'arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Jusqu'ici notre lecture. Voilà, seulement 9 courts versets qui forment un très beau texte. Alors il paraît que c'est en hébreu, c'est rempli d'allitérations, de rimes en fait, qui font écho tout le long du texte. Et même dans notre version française, on voit bien les répétitions, les échos. En fait, ça forme un plan en symétrie. 4 premiers versets, ensuite 5 versets qui se répondent en miroir avec une structure assez simple. Alors, on a 4 premiers versets qui parlent de l'action des hommes. Et à partir du verset 5 qui fait la charnière du texte, la deuxième partie donc le verset 5, l'Éternel descendit pour voir. J'ai essayé d'insister là-dessus. Ensuite, 4 versets qui parlent de l'action de Dieu, avec à chaque fois un temps de concertation pour les hommes ou pour Dieu, et puis ensuite d'action qui vient. Alors on va suivre ce plan. Dans un premier temps, le projet humain, et ensuite le plan divin. On prendra ensuite un peu de recul dans une troisième partie. Alors moi, ce qui me surprend dans ce texte, c'est que finalement, on n'a pas l'impression que ces êtres humains font quelque chose de très maléfique, en fait. Ça pourrait partir d'une très bonne intention. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de, on va dire, du mont Arara, là où ils sont, où Noé est arrivé après le déluge. Et puis, ils arrivent dans une plaine, naturellement une grande plaine, on atterrit facilement, une plaine fertile. Et ils décident de se concerter. Bon, si on lit ces versets, on se dit qu'ils n'ont pas quand même grand-chose à se reprocher. Mais il y a des petits indices qui nous montrent que l'auteur, en tout cas, condamne cette action. Et le premier indice, c'est un indice très, très subtil, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais déjà, on nous dit qu'ils partirent vers l'Est ou de l'Est. Et dans le livre de Genèse, il se trouve que l'Est s'est connoté un peu négativement. Quand Adam et Ève sont chassés du jardin, ils sont chassés à l'Est, au chapitre 3. Chapitre 4, quand Caïn s'enfuit, il s'enfuit à l'est. Quand Lot, au chapitre 13, doit choisir un des coins du pays, il choisit l'est où se trouvent Sodome et Gomorre. Mais bon, ça vous me direz peut-être que c'est une exception. Alors, les hommes se concertent. Qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent de faire des briques. On sait que historiquement, voilà, c'est vrai, hein, les briques, les premières briques cuites au four qu'on a, c'était même quasiment une industrie, c'est même carrément une industrie dans cette vallée de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, les gens se sont mis à cuire des briques, parce que c'est une région très fertile, mais où il n'y a pas de pierre. Les auditeurs de Moïse qui a mis à l'écrit la Genèse, les auditeurs de Moïse, eux aussi, les premiers auditeurs, ont cuit des briques. En Égypte, en tant qu'esclave. Alors peut-être que pour eux, ce n'est pas forcément un bon signe. Enfin, ceci dit, il n'est pas question d'esclavagisme ici. Et voilà, donc ils construisent des briques. Et ils construisent des briques pourquoi? Ils ont un deuxième allons. À chaque fois, c'est allons, faisons des briques. Et ensuite, ils vont se concerter de nouveau. Allons, construisons une ville et une tour. On se souvient souvent de la tour de Babel, mais c'est toujours la ville et la tour qui vont ensemble dans ce texte. Et la tour dont le sommet touche le ciel. Alors, on connaît bien le texte, on a envie d'aller vite dans l'interprétation, mais au fond, est-ce que c'est très mal? Je veux dire, ils construisent une tour dont le sommet touche le ciel. C'est peut-être pour inviter Dieu à descendre, ou peut-être pour s'approcher de Dieu. Il y a une démarche, moi je crois, vraiment profondément religieuse dans ce texte. De fait, les ziggourats, alors les ziggourats c'était ces espèces de grandes pyramides mésopotamiennes dont il reste beaucoup d'exemplaires, enfin quelques exemplaires en tout cas aujourd'hui, des pyramides très massives qui sont venues plus tard. Ces ziggourats en briques, elles servaient de temples. Et donc, à Babylone, c'était censé être une porte du ciel. Donc il y a une démarche religieuse. Ils cherchent à se rapprocher de Dieu. On pourrait dire peut-être que c'est des personnes en recherche. Mais en fait, à la fin de ce verset, on a leurs véritables intentions. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Donc c'est un projet, encore une fois, on ne veut pas être dispersé, on pourrait appeler ça un projet politique. Hein. La politique, ça veut unir les personnes. Mais en même temps, je vous l'ai dit, dès le chapitre 9, et qui répétait un ordre de la création, Dieu avait donné cette bénédiction ordre de dire « remplissez la terre, dispersez-vous, pullulez ». Et volontairement, ils choisissent de sortir de cette bénédiction divine. Parce que c'est une bénédiction, je vais vous rendre fécond, je vais vous donner de la fertilité. Ces hommes, donc, ils fuient le plan de Dieu, peut-être pour des raisons de confort, on se sent plus rassuré aussi, peut-être qu'ils ont peur, mais de fait, ils sortent de la bénédiction de Dieu. Ils choisissent de mépriser la bénédiction de Dieu, et ça me rappelle terriblement Genèse 3. Et surtout, qui est-ce qu'ils cherchent à glorifier ? Eux-mêmes, j'ai entendu, quelqu'un l'a dit. Et oui, c'est faisons-nous un nom. Ça me fait penser vraiment encore à Genèse 3, hein. Le serpent qui susurrait, vous serez comme Dieu. Celui qui se fait un nom dans la Bible, celui dont le nom est glorieux, c'est clairement le nom de Dieu. On lit souvent la Bible comme une histoire pour nous, mais c'est d'abord l'histoire de Dieu. Et d'ailleurs, dans ces quatre premiers versets, il n'est pas du tout fait mention ni de Dieu, ni d'aucun de ses noms. Cette tour, du coup, c'est peut-être pas forcément un défi. C'est peut-être un défi pour dire « nous aussi, on y arrive par nous-mêmes ». Mais en tout cas, c'est un plan qui est fait sans Dieu. Si même, quand bien même ce serait dire « c'est pour que Dieu descende ici ». Depuis quand c'est à l'homme de dire « où est-ce que Dieu doit descendre ?» C'est quand même extraordinaire. Et voilà, le fait de vouloir s'approcher de Dieu par ses propres forces, en décidant, voilà, c'est nous qui allons construire des briques, on va le faire de telle et telle manière. Voilà, Dieu ne s'est pas révélé comme ça dans la Bible. Alors, c'est un avertissement pour nous. La question est de dire, pour nous, dans mes projets, pour quel nom je travaille. Il y a un verset de psaume, du psaume 127, qui me fait beaucoup penser à l'épisode de Babel. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et dans Babel, ça va même plus loin. Si ce n'est pas le plan de l'Éternel, l'Éternel va disperser. Alors, pour tous nos projets, même à titre personnel, familiaux, qu'est-ce que je prévois, hein, des projets professionnels, des projets d'études, même des projets d'église, qui est-ce que je cherche à glorifier? Même, je pense en particulier, si en venant ce matin, vous aviez un projet en tête qui vous travaille. Réfléchissons bien. Est-ce que c'est pour la gloire de mon nom ou pour celle de Dieu? Ça pourrait être celle de mon clan aussi, hein, celle de ma famille. C'est pas forcément juste moi. Là, c'était toute l'humanité. Est-ce que c'est pour ma gloire ou celle de Dieu? Et c'est justement ça, Babel, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de nouveau dans Babel par rapport à tout ce qui s'est passé avant, c'est que c'est un péché collectif. Tout le monde s'y est mis ensemble. Toute l'humanité, les Nations Unies, même avant la notion de nation. Alors, c'est pas un génocide. C'est pas quelque chose qui nous paraît abominable, comme ce qu'avaient pu faire les Canaanites après. Mais, voilà, on a éjecté Dieu de l'équation. Ça devient plus qu'un prétexte. C'est pas lui qui est au centre. Ça m'a fait réfléchir par rapport à l'humanisme, la vision qu'on a du monde et de l'être humain en particulier en Occident aujourd'hui. L'humanisme, ça naît du christianisme. Hein. Le christianisme disait chaque personne a une valeur aux yeux de Dieu. Et ça a produit quelque chose d'assez bon, des déclarations universelles des droits de l'homme, ce genre de choses. Mais en même temps, quand on sort Dieu de l'équation, quand il devient plus un plus qu'un prétexte. Déjà, l'équation ne tient plus debout. On va me dire, c'est universel, mais depuis quand, enfin, et surtout, ça devient une rébellion, ça devient une trahison. Le premier problème de l'homme, ce n'est pas un problème avec ses congénères, mais c'est un problème avec Dieu, d'après la Bible. Alors maintenant, on en arrive au plan divin. On a un verset 5, que je trouve à la fois très beau et à la fois assez drôle. L'Éternel descendit pour voir. C'est ironique, aussi. Les hommes construisent une tour, choisissent d'aller jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette tour? Alors, la plus grande tour d'aujourd'hui, ça approche les 900 mètres. On a un projet à 1000 mètres. Qu'est-ce que c'est, 1000 mètres? On dit que la muraille de Chine est visible depuis l'espace. Vous avez entendu dire ça? C'est faux. Elle ne fait pas 10 mètres de large. Elle se voit vraiment pas très loin. Vous prenez Google Earth, vous dézoomez. Vous n'aurez pas besoin de dézoomer beaucoup. On dit aussi de la pyramide de Gizeh. Pareil. C'est faux. Au bout de quelques clics, c'est un pixel. Et donc Dieu, il a besoin de descendre pour voir ce grand projet des hommes. On est ridiculement petit. Il y a encore ce verset de Psaume. Si tous les hommes montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Psaume 62, verset 9, oui, 2. Ça, on le sait. Hein. Et encore plus devant Dieu. D'un côté, c'est terrifiant. On est sur cette petite planète dans l'espace, comme des grains de poussière. Et d'un autre côté, voilà, dans cette période, on est dans une période de tumulte. Alors on ne sait pas où est-ce qu'on en est d'un point de vue de la technologie de l'information. Il y a beaucoup de choses qui se posent comme question, même des technologies de la biologie, le climat qui est déréglé, la géopolitique. Alors, on est en déséquilibre, c'est ce qu'on nous dit. L'économie est tremblotante, mais voilà, il y a quelqu'un qui est au contrôle, qui a le recul. La situation n'est pas hors de contrôle. Et alors l'Éternel qui se présente ici, donc c'est Dieu qui se présente comme l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, le nom du Dieu qui fait alliance, il constate, il se concerte aussi et dit « Les voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Hein, » c'est assez difficile à rendre, mais les mots « entrepris » et « projetés », Si on les parcourt dans la Bible, ceux-là, les mots qu'il utilise en hébreu, c'est des mots qui sont connotés négativement. Là, encore une fois, il y a une sorte de condamnation implicite de ces projets. C'est des projets qui sont considérés comme abominables. Et Dieu fait écho aux deux « allons » des hommes, les hommes qui vont faire « allons, faisons des briques, allons, construisons une ville et une tour ». Dieu dit « allons, descendons de là ». Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Donc, encore une fois, ce texte qui fait des symétries, on y voit une certaine ironie. Hein. Les hommes ont plusieurs allons et finalement, Dieu sur un seul accomplit son plan. Il brûle leur langue et les disperse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà mené des chantiers, il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment ici, qui savent que les chantiers, c'est pas évident à gérer. Surtout quand il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et surtout, quand, du jour au lendemain, plus personne ne se comprend. J'ai un ami qui a fait ses études en Hongrie. Et le hongrois, c'est une langue vraiment à part. C'est pas une langue européenne classique. Il était allé au cinéma, il a vu un film arabe sous-titré hongrois. Il m'a dit que c'était un grand moment de solitude. Et c'est ça qui arrive aux hommes qui viennent de construire Babel, peut-être du jour au lendemain, en ceci dit, c'est pas précisé, mais assez rapidement, ils ne se comprennent plus. Ils ont des dialectes différents. Et c'est un jugement qui est, certes un jugement, mais qui est à la fois doux. Il n'y a pas de mort d'homme, comme au déluge. Et puis, c'est presque comique. Dieu se met par là, par ce jugement, à providentiellement limiter le mal des hommes. C'est pas un jugement de rétribution au sens qui fait payer le mal, mais c'est un jugement où il va arrêter leur projet malsain. Et alors je me demande, du coup, quand dans l'humanité, certaines choses qui pouvaient paraître très bonnes à la base ont été arrêtés de manière un peu étrange ou en tout cas pas très positive. Ce côté que ces hommes ne peuvent plus se comprendre, c'est pas quelque chose de positif. Mais en tout cas, leur projet n'est pas arrivé à terme. Et je me suis posé cette question par rapport à Internet. Au début, Internet, ça a fait naître beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui se disaient le libre accès à l'information, le fait que l'internaute il va être mieux, plus acteur dans ce qu'il fait. Est-ce que on n'arrivera pas à une meilleure humanité? Et là, on voit qu'aujourd'hui, 20 ans après, ces espoirs-là, voilà, il y a le ciblage des internautes. Il y a des contenus qui sont abêtissants, qui nous entraînent à perdre un temps pas possible. Et il y a des théories du complot, et puis maintenant, Internet est très découpé en morceaux. Internet, ça devient pour moi un cyberbabel, avec encore des choses bonnes, mais voilà, peut-être que Dieu a pu limiter, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse que je forme, que, en tout cas, le péché a limité, et peut-être que Dieu s'en est servi. On en arrive quand même à un texte qui peut paraître pessimiste, parce que à la fin, certes les hommes sont dispersés, Babel est resté un chantier, mais les hommes sont plus capables de s'entendre, et on ne voit pas la lumière qui permettrait d'y voir plus clair. D'ailleurs, ça conclut 11 chapitres où on a vu d'abord Adam échouer, Caïn échouer, être meurtrier de son frère, l'humanité tellement se pervertir qu'elle est ensuite balayée par le déluge, ensuite une recréation, un nouveau départ avec Noé, mais très vite, déjà avec les fils de Noé, ça dégénère. Et ça se termine quoi? Par un péché collectif avec Babel. Et alors Babel, c'est un peu étrange parce que c'est un mot qu'on utilise, on dit Babel juste dans ce texte de la Bible, mais c'est le même nom hébreu qui est utilisé tout le reste de la Bible pour Babylone. Et Babylone, on sait, voilà, dans tous les textes de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, Babylone, c'est le monde qui s'oppose à Dieu. C'est la cité qui incarne l'orgueil des hommes, la violence, l'idolâtrie des hommes qui s'oppose à Dieu. L'humanité qui veut supplanter Dieu. Alors, Dieu, dans sa providence, limite l'ampleur de cette Babylone. Et, mais voilà, pour nous, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Pour nous, il ne faut pas être naïf. Sous des apparences très saines, il peut arriver des choses, des choses qui s'opposent strictement à Dieu. On pourrait se laisser emporter par certaines philosophies. Alors, certaines qui nous disent, oui, allez, on va vers le progrès, on va aller plus loin, on va tout résoudre. Et d'autres qui disent, oui, il faut revenir en arrière aux fondamentaux, à la nature, tout ce que vous voulez. Mais dans un cas comme dans l'autre, si Dieu n'est pas le moteur, la raison d'être et celui qu'on veut glorifier par cette entreprise, c'est des idoles, c'est des faux-semblants. On en arrive à un moment ou à un autre à Babylone. Et s'écarter de Dieu, en fait, c'est, quand bien même ça pourrait paraître assez léger, en fait, c'est du suicide. C'est du suicide, tout simplement. C'est Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous disait Paul en Actes, ou encore en qui subsiste toute chose. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et c'est encore Paul qui dit ça. Alors, on a ce plan de Dieu, plan des hommes, voué à l'échec. Ensuite arrive le plan de Dieu qui est un plan de jugement. Et si on prend un peu de recul, et on en arrive à mon troisième point, Dieu a un plan plus large que ça. Je le sens quelque part, j'ai envie de le voir dans ce Dieu dessein. De toute façon, on sait que Dieu dessein. Après Babel, le livre de la Genèse prend un tournant. Dans les versets qui vont suivre notre texte, on va avoir la généalogie seulement d'un seul peuple. Et on va même la reprendre, ça va répéter certains éléments du chapitre 10, où là on s'intéressait à toute la terre. Là on va s'intéresser justement à une seule lignée qui va aller jusqu'à Abraham. Alors, je vous cite la lignée, c'est quand même intéressant. Il y a Sem, qui a donné le mot sémite, on en a parlé aussi un peu la semaine dernière. Puis Arpachshad, Shelach, Héber, qui a donné le mot hébreu, Peleg, Réu, Selug, Nakor, Terach et Abraham. Et on va se focaliser sur Abraham jusqu'à la fin de Genèse, Abraham et ses descendants. Car au début du chapitre 12, Dieu s'adresse à Abraham, plus tard qui sera renommé Abraham. C'est bien le même. Chapitre 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, qui habitait dans la vallée de Shinéar, dans la plaine de Shinéar, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous voyez les parallèles avec le texte de Babel. Toutes les familles de la terre, ça c'était le mot qui revient le plus dans le texte de Babel. Tous seront bénis en Abraham que Dieu choisit. Dieu, cette fois-ci, c'est lui qui démarre l'initiative à partir du chapitre 12. C'est lui qui choisit Abraham et qui choisit de le bénir et de rendre son nom grand. Ça c'est extraordinaire. C'est les hommes qui voulaient rendre leur nom grand, et maintenant c'est Dieu qui vient, qui en prend un, et qui dit « Je vais rendre ton nom grand, et par toi, je vais bénir toute la terre. » Alors Abraham, lui, n'avait rien demandé. C'est Dieu qui prend l'initiative de le bénir. C'est Dieu qui choisit les modalités. Qu'on le veuille ou non, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu, c'est la définition. Et c'est sur la base de ce que Dieu décide qu'on peut s'approcher de lui. Ce n'est pas nos constructions, nos efforts. Toutes nos constructions les plus prétentieuses, elles sont risibles aux yeux de Dieu. C'est lui qui descend pour nous voir. Il ne faudrait pas conclure de ce texte, Babel, que Dieu est un Dieu, en fait, contre les villes. C'est un Dieu qui s'intéresse plutôt aux bergers. Abraham est un berger. Hein. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu d'autres villes avant Babel, il y en a d'autres après, et surtout, il y en a une dont on a un petit peu parlé. Alors on a parlé du temple, mais c'est une ville-temple. Dieu prépare une ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. C'est l'espérance des chrétiens. L'espérance des chrétiens, c'est pas un retour au jardin d'Éden, comme c'est le cas dans le Coran, où on revient dans un jardin, comme si rien ne s'était passé. Non, Dieu fonde une ville, la Nouvelle Jérusalem. Et finalement, le monde s'oppose entre cette Babylone terrestre et la Jérusalem céleste de Dieu. Il y a un livre qui a un peu marqué l'histoire, qui est un livre d'Augustin, d'Augustin d'Hippone, Saint-Augustin, qu'on l'appelle parfois, qui s'appelle « La cité de Dieu ». Un petit morceau de ce texte que je trouve très beau. J'aurais pas pu écrire quelque chose d'aussi beau. Donc je vous le lis. « Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre. » L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi et l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, « Tu es ma gloire, et c'est toi qui élèves ma tête. » Ça vient du psaume 3. Celle-là, dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci nous représente ses citoyens unis dans l'amour, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là, dans ses princes, aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu, « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. » C'est dans le psaume 18. Alors la question encore se pose à nous, où est ma fierté, où est ma gloire? Dans l'amour de moi-même, jusqu'au mépris de Dieu, qui devient au mieux un serviteur de mes projets, ou dans l'amour de Dieu, jusqu'à m'abandonner à lui, jusqu'à être son esclave? Dieu n'a pas prévu de s'arrêter à Babel, et heureusement pour nous, il nous envoie un roi descendant d'Abraham, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui descend vers nous, Jésus, l'Éternel qui sauve. que veut dire Emmanuel et ce que veut dire Jésus. Il est venu racheter pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Et au nom de Jésus, chacun pliera le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10 à 11. Voilà le plan de Dieu. Il a dispersé les hommes avec des langues, mais il choisit de les réunir pour que toutes ces langues le louent. Je trouve ça magnifique. Et ce projet est en cours. Je vous fais les statistiques à jour de 2017. Aujourd'hui, la Bible a été traduite entièrement en 670 langues. Le Nouveau Testament en 1500 langues supplémentaires. Et il y a plus de 3300 langues qui ont au moins une portion des Écritures qu'ils puissent lire. Donc cette louange, dès maintenant, elle s'élève tous les jours de peuples dont vous n'avez jamais entendu parler. Et il reste, ceci dit, encore 220 millions de personnes qui parlent des langues dans lesquelles la Bible n'a pas encore été traduite. Et encore beaucoup d'hommes ne font pas partie de cette chorale. Je suis fier de faire partie de ce peuple. C'est unique. C'est beaucoup plus grand que Babel. Et nous, on est appelés à faire de toutes les nations des disciples, de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 28, voilà le plan de Dieu dans lequel on devrait mettre notre gloire. Alors, je vais conclure. On a vu le plan humain, des hommes qui s'éloignent de la bénédiction de Dieu. Dieu choisit de bénir et des hommes choisissent d'en sortir. Et nous ferions bien nous-mêmes de ne pas considérer Dieu comme une option à notre projet ou comme un soutien à nos propres projets, pour notre propre gloire. Et le plan divin, c'est comme dans le déluge, un plan où il y a du jugement, où il va disperser, parfois dans un but providentiel pour limiter le mal, mais ça nous dit que voilà, nos projets à un moment sont voués à l'échec s'ils ne sont pas bâtis par Dieu. Et heureusement, Dieu a un plan aussi de grâce. Dans son plan divin, Dieu prend l'initiative en bénissant un homme, Abraham, et tous ceux qui croient son fils d'Abraham, afin que toutes les nations de la terre soient bénies en lui. Toute langue louera le roi de la Jérusalem céleste, cette Jérusalem céleste où les murs sont transparents, où Dieu peut briller partout. Ce roi, c'est Jésus-Christ. Dieu est descendu pour voir ce que faisaient les hommes. Dieu voit très bien ce que fait chacun d'entre nous. Et voilà, on est invité chacun ce matin à répondre comme Abraham à l'appel de Dieu et à nous placer sous sa bénédiction, à devenir ses serviteurs.